Ce livre nous sauve. L'Évangile touche nos cœurs. Et nous sommes pardonnés lorsque nous rendons les armes. Nous nous repentons et nous suivons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sur Romains, chapitre 1 et verset 16, que cette Église est fondée. Car je n'ai point honte de l'Évangile. Oui, c'est ce verset, disons-le ensemble, s'il vous plaît. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Alors, on va regarder dans Actes chapitre 11, et nous lisons au verset 19. En passant, c'était le verset que je cherchais hier soir. Actes 11, 19 à 26. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur, et Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Prions. Notre Dieu, notre Père, c'est ta sainte parole, tes mots anciens, composés par des hommes réellement, selon leur nature chacun d'eux. Moïse est différent de Marc et de Paul, mais un seul vrai auteur derrière eux tous, ton Esprit Saint, ô Dieu. Merci, Père, pour ce livre. Permets maintenant que ton Esprit, qui en est l'auteur, touche nos cœurs pour qu'on en conclue les applications chacun pour soi et pour cette Église, pour ces deux Églises ici présentes et toutes les autres présentées. Touche-nous, Seigneur, à nouveau par ta parole qui est vivante et éternelle. Au nom de Jésus, amen. Alors, l'évangélisation dans ces passages, c'est par des frères et sœurs. Nous tous, nous avons toujours tendance à mettre des chefs, des titres. Moi, je me rappelle dans l'association de Fellowship, quand on avait un secrétaire. Mais avec le passage du temps, c'est devenu président. Pas d'accord. Secrétaire, c'est mieux. On ne veut révérer personne. Nous sommes ici comme des frères et sœurs au pied de la croix. Le plancher est plat. Il n'y a pas d'élévation. On n'appelle personne père. Mais nous sommes tous frères dans le Seigneur. Et ce sont les frères et sœurs qui, en étant persécutés et chassés de Jérusalem, ont essaimé, sont partis en Chypre et à Antioche, en Phénicie, l'île de Chypre et à Antioche. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils annonçaient la parole. C'était non des professionnels. C'était nous autres. Et on peut apprendre à bien évangéliser. On peut apprendre ce qu'il faut dire quand on annonce la parole. Ils ont annoncé la parole. Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, vous le savez, le salut vient du ciel. C'est la grâce de Dieu. Romains 6, 23, Éphésiens 2, 8, 9. Tu es pécheur et je suis pécheur. Romains 3, 23. Dieu, il est majeur. Ça, c'est l'Évangile sur le bout des doigts. Le majeur, c'est Dieu. Et il a combien de qualités? Qu'est-ce que tu aimes quand on parle de Dieu? Ah, ben, il est miséricordieux, il est amour, il est patient. Oui, 1 Jean 4, 8. Dieu est amour. Non pas il est aimant, il est amour. C'est la seule qualité qui prend un substantif. Tous les autres sont des adjectifs, même le mot saint. Et nous avons célébré sa sainteté hier soir. Mais il est juste aussi. Exode 34, 7. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un quand on veut évangéliser? Qu'est-ce que ses frères et sœurs ont dit? Ils ont parlé de la grâce de Dieu, du péché, de qui est Dieu, qu'il devrait nous punir en enfer, mais qu'il ne veut pas à cause de son amour. Comment sortir de cette énigme? C'est l'annulaire, l'anneau, c'est Jésus-Christ. L'évangile sur le bout des doigts, c'est de savoir comment évangéliser. Alors apprenez Jean 3, 16, apprenez Ésaïe 53, 6, comme quoi que le bouc émissaire, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un est mort à ta place. Tu es coupable, oui, pao pao, t'es mort. Mais il y a l'annulaire. Et ainsi, Jésus-Christ a pris ma punition. Je suis un homme sauvé, pardonné. Est-ce que toi, tu le voudrais aussi? Et là, on parle de l'auriculaire, c'est bien ça, le petit doigt. Comme une petite foi, mais même une petite foi peut sauver. Alors, c'était des frères et des sœurs, on va le dire, monsieur tout le monde, nous tous. Nous devrions tous être des évangélistes. Et nous proposons dans nos églises que tous les membres et adhérents sortent pour évangéliser, soit eux-mêmes à leurs voisins, soit dans des mouvements, dans le métro, ailleurs, porte à porte. Et la formation d'évangélistes de l'Église, ça a un effet multiplicateur. Et il faut que l'Église forme des évangélistes, que ce soit à Rosemont, que ce soit à Anjou, formons des évangélistes. Ce vendredi soir, à Anjou, à 4 heures, on fait une révision de comment évangéliser. Est-ce que c'est bien de cueillir une pomme? Oui. Est-ce que c'est mieux de planter un pommier? Pas pire. Les deux sont bons. Il faut faire les deux. Et dans ces passages, nous voyons aussi que l'évangélisation est persistante et christocentrique. Si je recule un peu, ils annoncèrent au verset 20, ils annoncèrent la bonne nouvelle de quoi? Ils annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ce matin, il est possible qu'il y en a qui ont entendu parler du Seigneur Jésus. Il veut être ton sauveur, mais il veut aussi être ton Seigneur. Et ça, c'est pour tout le monde qui est assis ici ou debout. Ça veut dire qu'il veut être mon sauveur et mon Seigneur. Il l'est, de toute façon, mais toi, tu ne le reconnais peut-être pas. Et ça demande de marcher avec le Seigneur Jésus. Il donne la vie éternelle à qui? À ceux qui le suivent. Est-ce que tu le suis à 100%? Toujours plus. Est-ce que tu pries tôt le matin, le soir, pour demander sa volonté? Il veut ordonner tous les moments de ta journée, mais il faut être en harmonie et en paix et en communication avec ton Seigneur. Il veut diriger ta vie, mais il n'est pas dirigiste. Il n'est pas un tyran. Il veut te faire du bien. Il veut amener le meilleur dans ta journée, mais il doit être ton Seigneur. C'est ça qu'ils ont annoncé à Antioche. Donc, l'évangélisation, c'est par les frères et sœurs engagés, pas des professionnels. Et puis, l'évangélisation est persistante et elle est christocentrique. On revient toujours à Jésus-Christ. Est-ce que c'est important de savoir si le septième jour, c'est le samedi ou le dimanche, etc.? Est-ce qu'il faut savoir s'il y aura un millénium littéral ou en image? Bien sûr, c'est important, mais ce n'est pas important pour celui qui a besoin d'un grand besoin pour l'âme, d'être guéri de son péché. Il a le cancer, il est mourant. Parle-lui du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'ils ont fait à Antioche. Et puis, on remarque dans ces passages que l'évangélisation est multiethnique. Je me réjouis aujourd'hui de la multiethnicité de cette église, de ces deux églises. Gloire à Dieu. Avez-vous vu le petit mot « parmi eux » ? Alors, « parmi eux », ça veut dire qu'il y avait déjà une église. Au verset 20, il faut reculer, verset 20, « il y eut cependant parmi eux ». Oui, mais ils viennent d'être persécutés, d'être chassés de différentes places. Parmi eux, il y en a qui n'étaient pas de Jérusalem, mais qui se sont joints au mouvement d'aller à Antioche. Pourquoi? Peut-être pour des raisons commerciales, on ne sait pas. Ils se retrouvent à Antioche. Et là, il y eut cependant parmi eux. Oui, mais il n'y avait pas d'église. C'est quoi ce « parmi eux » ? On sent qu'il y avait une solidité entre eux. C'est des chrétiens, ils ont le même esprit. Alors ils coalescent, ils se mettent ensemble. Et tout à coup, il y a comme une proto-église d'Antioche. Il n'y a pas encore de pasteurs ou d'apôtres qui sont au courant, mais il y avait parmi eux certains hommes de Chypre et de Cyrène. Chypre, c'est l'île qui est assez proche de l'Afrique du Nord. Et puis Cyrène, c'est en Libye en ce moment. Et qui sont aussi venus à Antioche et ils s'adressèrent aussi aux Grecs. Ah, OK. Donc, les premiers qui sont un petit peu plus traditionnels, un peu comme l'apôtre Pierre, qui ne parlait qu'aux seuls juifs, jusqu'à ce que la triple descente de la nappe, la vision de la nappe, allume Pierre qu'il faudrait que tu parles aussi aux non-juifs. Toc, 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 ça cogne en bas la porte. Lui, il est sur le toit, il a faim, il voit une nappe. Je ne sais pas s'il va vraiment manger après sa visite, mais en tous les cas, il va répondre à la porte et c'est Corneille ou non, c'est les envoyés de Corneille. Et voilà que Corneille et toute sa maison vont entendre l'Évangile et être sauvés. Car Jésus avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux quatre coins du monde. Ça, c'est la vision de Dieu. Autour du trône de Dieu, toutes les nations sont représentées. Il a une pléroma, un reste, une élection parmi toutes les nations. Il veut sauver. Et c'est pourquoi ces hommes qui ne sont pas nommés, ce ne sont pas des professionnels, mais au lieu de se cantonner à l'évangélisation parmi les Juifs, ils ont aussi adressé la parole aux Grecs, les nations, les barbares. Et ils lui annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et quoi? La main du Seigneur était avec eux. C'est dirigé par le Saint-Esprit. On devrait dire les actes du Saint-Esprit et non pas les actes des apôtres. Ben, c'est les deux. Parce qu'il y avait une belle synergie entre les deux. Et lorsqu'on se convertit, nous formons une nouvelle société. Allô? Nous sommes une race élue. Avez-vous investigué ce que ça veut dire? Une race élue. Wow! Une nouvelle race, si on peut dire. L'enseignement par des leaders pleins d'Esprit Saint et de foi. Avez-vous vu cette expression « plein d'Esprit Saint et de foi » Verset 24. Il y a environ 20 minutes ou 15, vous avez eu les annonces. Et sur l'annonce, il y avait un bâtiment. Et il y avait 1 million, puis ils étaient à 402 000. Ça prend de la foi, right? Et vous êtes remplis de foi, mais vos leaders sont remplis de foi. Et nous voulons soutenir par la prière et quand on peut donner, gloire à Dieu. C'est magnifique, ces leaders pleins de foi. Une foi assez nombreuse, une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur à cause de cette foi-là. Donc, ces hommes sont remplis d'Esprit Saint. Ne craignons pas les baptistes de dire « nous sommes remplis de l'Esprit Saint ». Ne craignons pas, laissons pas ce terrain-là seulement aux pentecôtistes, nos frères qui ont une autre doctrine sur certains points. Mais nous aussi, nous avons le Saint-Esprit. Il est là, il est en toi. Il veut être plaigné en toi, plein d'Esprit Saint. Alors, nous ne sommes pas cessationnistes pour dire que tous les dons sont terminés dans l'âge des apôtres. Nous ne sommes pas continuistes pour dire que tous les dons devraient continuer aujourd'hui, mais nous sommes confirmationnistes pour dire que les dons qui ont été donnés aux apôtres étaient pour confirmer la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu a été codifiée, canonisée, complète, eh bien, le grand miracle maintenant que nous recherchons tous, c'est le salut des âmes. Si je pouvais dire à quelqu'un qui a une jambe moins longue que l'autre, « Rallonge cette jambe-là », ben ce serait déjà un très, très grand miracle. Et on louerait le Seigneur. Mais c'est pour un temps. C'est de peu de conséquences face au salut d'une âme. C'est ça qui est le plus important. Alors nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait en réponse à nos prières. Et il répond à nos prières. Mais il ne livre pas les miracles de la même façon en 2026. Je n'ai pas vu d'apôtres ici. Je ne pense pas qu'il y en a au camp des bouleaux. Ils ont terminé leur siècle et leur mandat. et ils avaient le don des miracles pour confirmer la nouvelle parole apostolique qu'ils emmenaient. Mais pour nous, à quoi bon de parler de cela? Pour nous, quoi? Soyez remplis du Saint-Esprit? C'est un commandement. C'est un commandement du Seigneur Jésus-Christ. On laisse la loi de Moïse pour les 12 tribus, ça, c'est terminé, Jésus est arrivé et il a 2 commandements. Mais il a plein d'autres commandements. Soyez remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais de ça? As-tu demandé ce matin d'être rempli du Saint-Esprit? Et quand on est rempli du Saint-Esprit, il faut vider tout le reste. Il faut laisser sa propre volonté de côté. Comment est-ce que je peux être rempli du Saint-Esprit? Oh, ça va prendre des conférences, peut-être au camp des boulots. Peut-être le pasteur va faire une longue étude et à la fin, peut-être qu'on pourra trouver un moyen d'être rempli de l'Esprit. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça le salut. Le salut, c'est instantané quand tu demandes dans la repentance et la foi que Jésus vienne dans ton cœur et te pardonne de tout péché, c'est instantané. Tu n'attends pas des siècles. Et c'est la même chose pour la plénitude du Saint-Esprit. Fais-le une fois ce matin, fais-le une autre fois à chaque minute de la journée. Demande la plénitude du Saint-Esprit constamment. Car il est dit dans Luc 11, 13, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » C'est simple, c'est par la foi. Demandons-lui en cet instant même, dans notre esprit, « Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, s'il te plaît, que j'aie les qualités et le fruit du Saint-Esprit, que j'aie la puissance du Saint-Esprit pour dire non au péché. Règne en moi, Saint-Esprit. » Alors ici, soyez remplis du Saint-Esprit, c'est ce que ces hommes avaient comme qualité. C'est pour ça qu'ils ont été choisis. Choisis par Dieu. C'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Il s'appelle Barnabas. Fils de la consolation ou fils de l'exhortation, Barnabas. Et cet homme-là était rempli du Saint-Esprit et de foi. Le Saint-Esprit dirige Barnabas et il devrait te diriger, me diriger, parce qu'il est la troisième personne de la Triunité, mystérieuse, inconnue. On connaît le Père, et c'est une personne, et il est Dieu. On connaît le Fils, et c'est une personne, et il est Dieu. On connaît moins le Saint-Esprit, parce qu'on ne lui demande pas souvent de venir nous remplir. C'est l'Esprit de Christ. Et on peut prier le Père, des fois on prie le Fils, et ce n'est pas souvent qu'on prie le Saint-Esprit, et c'est bien, parce que le Saint-Esprit réfléchit toujours la prière au Père, par Jésus-Christ. Mais il est là, et il est puissant, et c'est lui qui dirige l'Église depuis ses 70 ans. Et c'est lui qui veut, en tant que troisième personne de la Triunité, appliquer le salut et la sanctification. Dieu le Père le conçoit, il est l'architecte. Dieu le Fils est l'exécuteur à la croix. Il achève notre salut et le Saint-Esprit l'applique dans ton cœur quand tu le reçois. Maintenant, il y a une autre chose ici. Nous voyons qu'il y a une foi, pas seulement être rempli d'esprit, mais rempli de foi. Et j'ai parlé de la foi de vos anciens qui maintenant regardent et considèrent ce magnifique bâtiment. Et on veut prier. Et même, je vais prendre un instant pour prier que ça aille bien. Et je partageais avec une sœur, je crois que c'est Yolande, sur l'église des deux rives, rive sud, près de Saint-Hilaire. Ils ont aussi un projet d'acheter une église catholique, mais les prêtres ne veulent pas vendre. On va prier pour ces deux églises-là qui veulent acheter des églises catholiques. Seigneur, pour Rosemont, nous te prions que l'acheteur puisse trouver ses finances et que ça puisse être clenché comme contrat. Veuillez donner sagesse à tous ceux qui dirigent les finances et les rénovations du bâtiment. Et gloire à toi pour cet magnifique outil. Et pour ceux qui sont à deux rives, veuillez leur accorder d'avoir aussi leur église catholique. Par ta grâce, c'est toujours toi qui as le meilleur chemin pour chacune de nos assemblées. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ, amen. Des hommes pleins de foi, on en parle. Il y en a eu à Rosemont, il y en a à Rosemont, et il y en a aussi à notre petite église à Anjou. Gloire à Dieu pour Wismi. Il a eu l'automne passé une foi ferme pour dire, ben, ok, peut-être que le bâtiment de l'association va être vendu, peut-être qu'il y en a qui vont déménager au magasin Laura sur la voie de service de la 25, ils vont être proches de nous, mais il n'y a pas de pistolet à notre temple. Au lieu de fusionner avec une autre église, continuons. Ça prend une foi ferme, remplie de l'esprit et une foi ferme. Et gloire à Dieu pour Wismi. En janvier, il nous a annoncé sa décision d'entrer dans le pastorat suite à mes 80 ans. En septembre 2027, mais je vous demande de prier avec nous que Dieu pourvoie deux anciens avec Wismi. Cet été, Wismi a acheté une propriété à Anjou, sur la rue des Angevins. Gloire à Dieu pour ce couple, Wismi et Rebecca. Ça prend des hommes et des femmes pleins de foi. Et nous voyons un enseignement en équipe. Et ça a été aussi la force de cette Église à travers ses 70 ans. Mais on le voit ici, Barnabas ne trouvait pas la tâche facile et il est allé chercher Saul de Tarse. Beaucoup rejetaient Saul. Non, pas lui. C'est le persécuteur de l'Église. Mais Barnabas avait la confiance. Il entendait que le Saint-Esprit avait touché le cœur de cet homme et il l'a fait venir à Antioche. Et pendant un long moment, ils ont enseigné la parole. Nous voyons ici une église locale qui a un impact dans la communauté. Ils sont appelés Christianos pour la première fois parce que le Christ habite en eux et on le reconnaît. Donc, ce n'est pas seulement pour Rosemont d'avoir un comptoir alimentaire et avoir un impact social comme cela, mais ce sont des membres et des adhérents qui portent le Seigneur Jésus-Christ et qu'on le voit, ça rayonne, ça paraît dans la façon que tu transiges ton commerce, tes actions, tes paroles dans le voisinage, qu'on reconnaisse que nous avons été avec Jésus, comme dans Actes 4, 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alors, il bâtit l'église locale. Il fait aussi rayonner l'église locale. Se reproduire en envoyant, selon Actes 13, 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alors, on voit premièrement, le service des anciens est un service spirituel. On voit ces hommes qui sont en train de jeûner et prier. Et vos anciens prennent des temps à part pour prier, pour discuter et surtout pour discerner la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il faut. C'est pourquoi cette Église dure encore, parce que les leaders cherchent la volonté de Dieu et non pas la leur. Alors, si c'est notre volonté, ben on veut garder cette belle cohorte, Barnabas, Siméon, Lucius, Manaen et Saul. Mais le Saint-Esprit décide autrement et envoie Barnabas et Saul. Et les leaders ont face à deux tentations, tout faire soi-même ou bien tout déléguer. Mais si on compare l'Église à une ruche, les ruches d'abeilles qui nous parlent ce matin, alors on va dire, ben, le Seigneur prévoit les abeilles ouvrières. Et selon Acte 6, j'aimerais vous montrer une image d'une ruche ici, là. Pour l'image d'un essaimage, c'est à peu près la meilleure image. Les abeilles vont lancer un nouvel essaimage. Et ce jour-là, dans Acte 13, à Antioche, où il y avait eu toute cette fébrile évangélisation et où Barnabas était venu, où il était allé chercher Saul pour se rajouter. Et il y a maintenant un magnifique conseil. Eh bien, il y aura maintenant un essaimage. Et on va mettre à part Saul et Barnabas pour cette tâche. Le Saint-Esprit appelle certains anciens à essaimer. C'est un verbe intransitif du mot essaim, groupe d'abeilles qui se séparent de la colonie originelle pour fonder une nouvelle société. Les abeilles quittent la ruche pour former une colonie nouvelle. Les ruches se divisent pour l'émigration du nouvel essaim. C'est l'histoire de Rosemont depuis ses 70 ans. Et c'est Dieu qui dirige la multiplication et qui donne l'unanimité. Ils ne les ont pas gardés pour eux, ils les ont laissés aller, ils les ont bénis. Et ils sont partis pour lancer toute une kyrielle d'église en Asie. Donc, c'est un service spirituel. On est appelé certains anciens et certains membres de l'Église à essaimer, et c'est Dieu qui dirige le tout. Dieu est fidèle dans les progrès de l'Église locale. C'est lui qui l'a bâti. Mais comment est-ce qu'il l'a bâti? Maintenant qu'ils ont quitté Antioche, qu'est-ce que Saul et Barnabas vont faire? Quel est leur modus operandi? C'est quoi leur moyen? Alors ils arrivent en ce qui est maintenant la Turquie, ils arrivent en Galatie, et là, dans les différentes villes, voici comment ils opèrent. Et ayant été relâchés, ce qu'on peut dire étant la première étape dans le cycle paulinien de croissance des églises, donc ils sont relâchés d'une église locale, maintenant allons voir les quatre étapes fondamentales. On va le lire. « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Alors ces progrès, il y a quatre étapes et la première, c'est une stratégie urbaine. Acte 14, 21, « Quand ils eurent évangélisé cette ville. » Acte 18, 10, parle, car j'ai un peuple nombreux dans, c'est quoi? Comment est-ce qu'on le dit en latin? Urbs, urbe, une ville. Dieu a une stratégie urbaine. Il voudrait des églises, je pense, au minimum une dans chaque ville, ou chaque arrondissement. Et certains arrondissements sont tellement grands que ça n'en prendrait plus qu'une. Une stratégie urbaine. Nous voyons ici qu'ils ont évangélisé la ville. On ne sait pas comment. Est-ce qu'ils ont eu des stands bibliques avec des traités? Est-ce qu'ils ont cogné aux portes? Est-ce qu'ils ont été dans le marché pour parler aux gens? Dans les parcs? Il n'y avait pas de télévision. Comment ils ont fait? On ne sait pas. Mais ils ont évangélisé la ville. Euangelizoma. Ils ont annoncé la bonne parole. Ailleurs, il est dit « Cherchez un homme de paix ». Et ensuite, ça va faire tache d'huile. Ils ont évangélisé la ville et c'est ce que nous devons faire à Rosemont, l'ancien Rosemont, le nouveau Rosemont. Mais il faut évangéliser la ville. Et deuxièmement, pas seulement d'évangéliser, mais il faut faire le suivi, le discipula. Dites-le avec moi, discipula. J'ai un but en disant discipula parce qu'il y en a qui disent discipula. Mais je pense que c'est plus fidèle au latin et au français de dire discipula. Nous sommes tous des disciples de Jésus-Christ et on veut reproduire d'autres disciples par des formules différentes. Il y avait le maître et son disciple. Il y a d'autres formules pour engager les chrétiens à connaître les fondements de la foi. C'était la deuxième étape. Dans Actes 14, 21, ils ont fait un certain nombre de disciples. Donc, ils ont évangélisé et là, ont surgi ceux qui étaient intéressés et ils en ont fait des disciples. Troisièmement, ils ont formé une église, parce qu'il est dit « fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Beaucoup de tribulations. Oh, je sais qu'il y en a ici qui souffrent ce matin, parce qu'il y a des tribulations dans la vie chrétienne. Et parfois, nous en sommes l'auteur, mais parfois, il nous tombe dessus. C'est le Seigneur qui nous teste. Mais quand il nous teste, ce n'est pas une épreuve pour nous faire caler, c'est pour nous fortifier. Alors, prends force ce matin. Il y en a qui, en ce moment même, en Algérie, sont très éprouvés. L'ami de Saïd, il s'appelle Lamine. J'aimerais même faire une prière pour lui en ce moment. « Seigneur, s'il te plaît, fortifie ton serviteur Lamine, qui ait fait face à des mois de prison, ainsi que 8 autres personnes. S'il te plaît, délivre-le des autorités, Seigneur. Fais-lui du bien, fortifie sa foi au nom de Jésus. Et aussi tous ceux qui, ce matin ici, ont des épreuves et qui souffrent, fortifie leur foi, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. C'est ça le message essentiel. Ce n'est pas très winner comme message. Venez à notre réunion, on va vous enseigner. Ah, c'est bon, vous aurez beaucoup de tribulations. C'est pas trop populaire comme message, mais c'est la réalité. Et cette Église en a passé beaucoup en 70 ans, et c'est pas prêt de finir. Mais le Seigneur est avec nous, gloire à Dieu. Donc, il y a la formation d'une Église. Et on pourrait en parler longtemps, mais ce n'est pas notre sujet. Donc, la quatrième, c'est de reconnaître et de former des anciens. Voilà les 4 étapes. On reconnaît des personnes qui ont le don d'anciens, qui ont un soin pastoral, qui ont une vision, qui sont remplies de l'esprit, qui prient, qui lisent et qui exhortent les frères et sœurs. On les reconnaît, on les met à part pour l'ancienat. Alors, c'est la fidélité de Dieu à l'Église dans la période des progrès. Et regardons cette période rapidement, s'il vous plaît. Donc, Jésus-Christ a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et il est avec nous, bien sûr, ce matin. C'est lui qui nous exhorte. C'est lui qui nous fait rayonner. J'espère que vous garderez cette belle image de l'essaim d'abeilles dans votre mémoire pour ce qui se passe dans ce message. Gloire à Dieu pour ces 70 ans. À toi seul, ô Dieu, toute la gloire pour ta fidélité envers nous depuis 70 ans. Amen.